À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Les paradoxes dans l'Évangile », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
L'Évangile, notait le père de Lubac, est plein de paradoxes. Par quoi l'esprit est d'abord secoué? Des paradoxes qui bousculent et qui dérangent. Et il se demandait si toute doctrine spirituelle un peu forte ne doit pas nécessairement revêtir une forme paradoxale. Faut croire que oui. Peut-il en être autrement? La venue de Jésus dans notre monde, sa vie et son enseignement, sa mort et sa résurrection, introduisent un tel bouleversement dans nos perspectives à courte vue, une telle révolution dans notre façon de vivre et de penser, qu'il est précisément impensable que cela ne choque pas, ne nous dérange pas profondément, et qu'au départ, nous n'ayons pas une réaction de rejet, comme lorsqu'on pratique des transplantations cardiaques. Lors des funérailles, le 8 avril 1999, de l'ancien directeur de l'Institut cardiologique de Montréal, le Dr Paul David, on a lu ce texte qu'il avait lui-même rédigé. La science médicale réalise des transplantations du cœur et le monde entier s'en passionne. Mais l'essentiel n'est pas là. En prenant notre chair, Dieu lui-même a transplanté son cœur en nous. Bien sûr, comme pour le receveur du cœur greffé, notre première réaction est celle du rejet. Rejet de l'autre qui veut nous habiter, rejet d'un dynamisme vigoureux qui veut nous alimenter, rejet d'un synchronisme déroutant qui cherche à nous régir. Mais à cette phase de rejet doit succéder celle de l'adaptation. Pour nous, chrétiens du XXe siècle, cela veut dire que nous devons nous attacher, tous et chacun, à substituer à nos vieux cœurs blasés par la monotonie d'un tic-tac routinier, des cœurs jeunes qui veulent battre au rythme de l'Évangile et du renouveau conciliaire. Je crois que le cœur de Dieu doit habiter en nous. Être chrétien engagé, c'est travailler à vivre et à faire connaître ce miracle millénaire de Jésus. Tous les paradoxes chrétiens veulent dire, chacun à leur manière, la même chose. Le bouleversement radical opéré par la venue de Dieu parmi nous. Notre façon d'exister, notre façon de penser et d'aimer, notre façon de nous comporter et d'agir, ont profondément été changés, renouvelés. En Jésus, nous sommes appelés à devenir un homme nouveau, à emprunter un esprit nouveau, à acquérir un cœur nouveau. C'est cette nouveauté inouïe, étonnante, déconcertante que décrivent les paradoxes des béatitudes. Le singulier bonheur des pauvres, la bizarre jubilation des persécutés, l'étrange force des doux, la curieuse allégresse des affligés et de ceux qui pleurent. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu heureux et qui veut que nous soyons heureux. Lorsque nous pensons un Dieu triste, complexé, peureux, nous faisons de la projection. Nous plaçons en Dieu des sentiments qui ne lui appartiennent pas, qui ne relèvent pas de lui, mais de nous. Ce que le Seigneur Jésus est venu greffer dans le cœur de l'homme, c'est précisément une plénitude de vie, une forte pulsation de son propre cœur, la démesure de son amour, qui ont précisément comme signe et expression la paix et la joie. Il n'y a pas de mystère triste dans la foi chrétienne. Il y a des mystères douloureux, ce qui est autre chose. Il peut être douloureux pour une femme de mettre un enfant au monde, mais ce n'est pas triste. La peur et la tristesse sont deux sentiments poisons, des signes que la vie fonctionne mal en nous. Ces deux sentiments expriment un manque de tonus, de vitalité spirituelle. Comme des acides, elles nous rongent et nous grugent par en dedans. Elles sont la marque de la dépression intérieure. La tristesse nous fait nous désoler et nous lamenter sur un passé qui nous a déçus ou sur un présent que nous n'acceptons pas. La peur, pour sa part, nous empêche d'affronter l'avenir avec audace. Dans les deux cas, nous sommes bloqués, démobilisés, tournés vers nous-mêmes, figés, incapables d'agir. La peur et la tristesse sont des maladies contagieuses qui peuvent contaminer et déprimer tout notre milieu. La paix et la joie, voilà les antidotes de la peur et de la tristesse. Fruit de la résurrection, signe de l'esprit, il représente les attitudes normales du chrétien. Ces attitudes sont également contagieuses, comme le soleil qui est fait pour se propager. Comme la joie chasse la tristesse, la paix nous débarrasse de la peur. « N'ayez pas peur, dira Jean-Paul II au tout début de son pontificat, à sa première allocution en octobre 1978. Il faisait alors écho à l'invitation de Jésus dans son discours de la scène, « Que votre cœur ne se trouble pas, j'ai vaincu le monde. » L'Évangile se veut essentiellement un message de joie et de paix. Les béatitudes ne sont pas des promesses, mais des déclarations de bonheur. On connaît les 8 béatitudes classiques chez Matthieu, mais il en existe beaucoup d'autres chez les autres évangélistes. Plus de 28 béatitudes dans le Nouveau Testament, auxquelles il faudrait ajouter, tels les négatifs en photographie, d'heure contraire, les nombreuses interpellations « Malheureux êtes-vous » qui les accompagnent et qui en accusent l'importance. On sait que Matthieu, dans son évangile, présente Jésus comme le nouveau Moïse. C'est pour cela que chez lui, le discours des béatitudes a lieu sur la montagne, pour signifier qu'il s'agit là de la loi nouvelle. Si les 10 commandements de Moïse sur la montagne, explicites pour le croyant, les exigences minimales de son agir, Les béatitudes, pour leur part, en marquent en quelque sorte la réalisation maximale. Luc, quant à lui, situe la proclamation des béatitudes dans la plaine pour bien indiquer son caractère universel. Ce qui convient à l'évangéliste Paul, l'évangéliste de Paul, l'apôtre des gentils. Saint Augustin considérait les béatitudes comme un abrégé des évangiles. Elles proposent à coup sûr un modèle de vie chrétienne en suggérant les conditions d'appartenance au royaume, à la communauté des croyants, et en offrant comme une sorte d'autoportrait du Christ. L'expression est de Jean-Paul II. Les béatitudes, commente le père Van Brimmen, se composent de 8 affirmations qui constituent un tout, comme une tentative pour dessiner un portrait du Christ en 8 coups de crayon. Chaque ligne s'efforce d'exprimer la même attitude sous un angle différent. Ensemble, elles reflètent la mentalité de Jésus, son style de vie et celui des hommes qui croient en lui. Le mot « praotès », qu'il est possible de traduire par « doux et humble de cœur », peut être pris comme le résumé de ces 8 béatitudes. Le vieillard Siméon l'avait prédit lors de la présentation de Jésus au temple. Cet enfant est établi comme un signe de contradiction. On ne s'étonnera pas de retrouver dans les béatitudes un portrait de Jésus qui soit profondément paradoxal, totalement opposé aux attentes mondaines, bouleversant toutes les conventions, offrant l'intuition d'un nouveau style de vie proprement révolutionnaire. On peut facilement regrouper les béatitudes en 3 sections. 3 béatitudes concernent les dispositions intérieures du croyant. Ce sont les béatitudes du pauvre, de la douceur et du cœur pur. Le 2e groupe se rapporte à l'agir ou à la visée apostolique. On y parle de la faim, de la soif de justice, de la miséricorde. On y parle des artisans de paix. Et enfin, le reste des béatitudes regroupe les conséquences de l'agir chrétien et de l'engagement apostolique. Et ce sont les insultes, les persécutions et les pleurs. Cette division en 3 parties rejoint les triples recommandations que Jésus fait à ses disciples lorsqu'il les envoie en mission. Attitude de dépouillement et de pauvreté, n'emporter ni bourse, ni besace, ni chaussures. Attitude qui rejoint la mission de paix et de justice, dites d'abord paix à cette maison, et enfin la perspective de persécution, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le cantique du Magnificat, comme aussi les 8 signes de l'Esprit dans Galates 5:22, ne sont pas sans offrir la même tonalité que les béatitudes. Le Seigneur disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Et dans Galates, le fruit de l'Esprit est charité, paix, joie, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Là encore se trouvent décrites des attitudes paradoxales qui s'opposent diamétralement à la philosophie et aux mœurs du monde. Comme le Christ, le chrétien est appelé à être dans son milieu un signe vivant de contradiction, folie pour les gentils, mais sagesse pour Dieu. Le début de la première épître de Paul aux Corinthiens développe longuement ce thème de la folie et de la sagesse qui rejoint le paradoxe des béatitudes. Ce qui se profile derrière les réflexions de saint Paul, c'est le mystère de la croix glorieuse, de la mort et de la résurrection, sommet de la vie du Christ et des chrétiens. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, poursuit saint Paul, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui est dans le monde est sans naissance, et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Quel étrange idéal que celui que proposent les évangiles. On croirait, avoue saint Paul, que Dieu a fait de nous les derniers de tous. Nous passons pour des fous à cause du Christ. Nous sommes faibles, méprisés, pauvres, affamés. Et pourtant, nous sommes heureux et libres. Les gens nous insultent, nous bénissons. Ils nous persécutent, nous supportons. Ils nous calomnient. Nous avons des paroles d'apaisement. Quel est donc le secret de ces étranges comportements? D'où viennent ce bonheur et cette liberté insolite? Les béatitudes à travers l'histoire n'ont pas toujours bien été comprises. Comme pour tous les paradoxes des évangiles, les petits qui sont les plus grands, les pauvres qui sont riches, les faibles qui sont forts, les derniers qui sont les premiers, les béatitudes demandent qu'on y regarde à deux fois, que l'on porte un second regard sur la réalité, un regard plus profond, un regard de foi. Il existe un danger de réduire les béatitudes à leur seule dimension psychologique ou sociologique, ce qui amène très vite à des absurdités. On sait en ce qui concerne la béatitude du pauvre qu'il y a divergence entre saint Matthieu et saint Luc. Matthieu parle de la pauvreté du cœur. Luc, de son côté, renvoie à la pauvreté matérielle, celle que l'on retrouve réellement dans la vie concrète. Ces deux versions ne sont pas à opposer. Il faut au contraire les conjuguer pour que la pauvreté du cœur ne soit pas fictive et que la pauvreté concrète ne soit pas désespérante. Encore qu'il faille distinguer la pauvreté misère, qu'il faut combattre parce qu'elle est dégradante pour la personne humaine, et la pauvreté richesse, qu'il faut rechercher parce qu'elle s'identifie à la liberté face aux richesses de toutes sortes. Le vrai pauvre n'est pas celui qui ne possède rien, mais celui qui reçoit tout et qui donne tout. Cette pauvreté est éminemment désirable et source d'un grand bonheur. Dans le cahier Évangile numéro 24, consacré aux béatitudes, au tout début, se trouvent des textes qui sont pour le moins ambigus, pour ne pas dire nettement révoltants, à propos du bonheur lié à la pauvreté. On y confond non seulement la pauvreté-misère, qui est à combattre, la pauvreté-richesse qui est à promouvoir, la réalité sociologique de la pauvreté et les attitudes intérieures de la pauvreté du cœur. Mais encore, on arrive à béatifier bêtement la misère comme telle, en y voyant une nécessité de l'ordre naturel voulu par Dieu. Écoutez ce texte affreux du politicien Adolphe Thiers. Je cite « Le riche est bienfaisant. Regardons-le. Il quitte ses palais pour visiter la chaumière du pauvre, bravant la saleté hideuse, la maladie contagieuse. Et quand il a découvert cette jouissance nouvelle, il s'y passionne. Il la savoure et ne peut s'en détacher. Supposez toutes les fortunes égales, supposez la suppression de toute richesse et de toute misère. Personne n'aurait moyen de donner. Vous aurez supprimé la plus douce, la plus charmante, la plus gracieuse action de l'humanité. Triste réformateur, vous auriez gâté l'œuvre de Dieu en la voulant retoucher. Laissons-nous, je vous prie, laissons-nous le cœur humain tel que Dieu l'a fait. » Les hommes d'Église eux-mêmes n'échappent pas à la tentation de béatifier la pauvreté d'une manière ambiguë, difficilement compréhensible pour des consciences éveillées à la justice sociale. Ce texte de Léon XIII porte beaucoup à réfléchir là-dessus. Je cite « La question des rapports du riche et du pauvre qui préoccupe tant les économistes sera parfaitement réglée, pour cela même qu'il sera bien établi que la pauvreté ne manque pas de dignité, que le riche doit être miséricordieux et généreux, le pauvre content de son sort et de son travail, puisque ni l'un ni l'autre n'est né pour les biens périssables, et que celui-ci doit aller au ciel par la patience, celui-là par la libéralité. Heureux les pauvres! Qu'il s'agisse de spiritualiser la pauvreté matérielle, qui n'est pas sans dignité, ou d'utiliser politiquement la divine théorie de la résignation pour contraindre les classes ouvrières à accepter silencieusement le chômage et la misère, les résultats sont terribles. On ne peut pas proclamer sans nuance la pauvreté comme un idéal chrétien. En maintenant cette affirmation à un certain niveau de généralité, écrit Gutiérrez, on ouvre la porte à toutes sortes d'équivoques. Et il poursuit, « À lire la Bible, en effet, la pauvreté matérielle est une situation infra-humaine, fruit de l'injustice et du péché. La situation de pauvreté ne peut donc pas être un idéal chrétien. Ce serait désirer un état considéré comme dégradant pour l'homme. De plus, de pareilles exigences évangéliques iraient à contre-courant de la grande aspiration humaine qui consiste à se libérer de la suggestion de la nature, à éliminer l'exploitation de l'homme et à créer de meilleures conditions de vie pour tous. Idéaliser la pauvreté, ce serait aussi, et ce n'est pas moins grave, justifier, même involontairement, la situation d'injustice et d'exploitation qui est la cause fondamentale de la pauvreté, de cette pauvreté réelle dont souffre la majorité des latino-américains. » Fin de la citation. Le paradoxe de la pauvreté, de la béatitude du pauvre, du petit, de l'opprimé, sera quelque peu éclairé si l'on arrive à comprendre clairement que ces derniers ne sont pas bienheureux parce qu'ils sont démunis, méprisés, persécutés, mais à cause de Jésus-Christ, qui en a assez de leur misère et qui prend parti pour eux. Leur bonheur se trouve en Jésus-Christ, alors qu'il vient chercher ce qui était perdu et rétablir par la résurrection la personne humaine dans son intégrité et sa dignité de fils de Dieu. Les béatitudes n'ont de sens que prononcées par Jésus. Elles ne sont vraies que parce que Jésus est là, pour apporter la joie dont il parle. C'est la présence de Jésus qui fait la joie des malheureux et la richesse des pauvres. La présence actuelle du Christ comme libérateur du pauvre et du petit ne s'impose pas. Elle s'exerce dans le respect de la liberté des personnes, qu'elle mobilise et engage dans ce travail de transformation de la condition humaine. C'est ce qu'exprime très bien Segundo dans cette réflexion sur le mystère de l'Ascension. Voici une autre façon de comprendre le « il est bon que je m'en aille ». C'est comme si Jésus vous disait « par ma résurrection et l'envoi de l'Esprit, j'ai remplacé la promesse par la réalité. Désormais, je ne calmerai plus la tempête, mais mon esprit la calmera. Quand par vos techniques, vous aurez construit des vaisseaux capables d'affronter les vagues de la mer, je ne viendrai jamais plus pour donner du pain à la foule dans le désert, mais je le ferai encore lorsque mon esprit créateur qui est en vous vous aura conduit à améliorer les sols et mieux distribuer les richesses. Et si dans cette œuvre d'amour vous souffrez, moi je ne peux pas l'éviter, parce que je ne suis déjà plus parmi vous, mais en vous, comme source de cet amour et de cette créativité, de cet effort qui vous amène à vous aimer les uns les autres de manière plus efficace et plus solidaire. Je suis celui qui, en chacun de vous, souffre à cause de la mer tumultueuse, des sols arides, de la misère et de l'aliénation. Je souffre autant que vous et avec vous tous. Je ne vous ai pas embarqué dans une aventure sans savoir si le port valait la traversée. L'unique garantie que je peux vous donner, c'est de m'être embarqué définitivement avec vous.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.